N'est-il pas surprenant que Jésus ait dit si peu de choses du haut de sa croix? Pendant les 6 heures où il fut horriblement suspendu entre ciel et terre, il n'a prononcé que 7 paroles, une 40aine de mots en tout. Les commentateurs de tous les temps se sont saisis de ces quelques mots pour en faire des volumes. Les prédicateurs en ont fait des sermons. On les a même mis en musique. Et cela n'est pas étonnant, car la bouche qui les prononce n'est pas quelconque. La circonstance n'est pas banale. Nous sommes en présence de celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cependant, plus que ses paroles, c'est son silence qui est oppressant, impressionnant. Nous nous demandons ce qu'il pouvait bien penser, quelles émotions pouvaient bien remuer son âme en un moment pareil. Car enfin, il était né pour ce jour-là, il le savait, il l'avait annoncé, et maintenant c'était arrivé, l'agneau de Dieu était immolé. Alors pourquoi n'a-t-il pas profité de cette dernière occasion pour prêcher une dernière fois et clôturer ainsi d'une manière magistrale son ministère parmi les hommes? Il y a tant de choses qu'il aurait pu dire. Tant de personnes l'avaient écouté, suivi, admiré. Une dernière fois, il aurait pu prononcer un discours, un sermon sur le mont de Golgotha. Il aurait pu au moins répéter certaines déclarations qui avaient fortement impressionné son auditoire. Il avait dit par exemple « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Il aurait pu dire et répéter tout cela, et bien d'autres choses encore. Pourquoi donc a-t-il parlé si peu? Je crois que c'est Ésaïe qui nous ouvre le cœur du Christ. Plusieurs siècles avant l'événement de la crucifixion, Dieu avait donné à ce grand prophète la grâce de contempler de loin, par inspiration, la signification de la croix. À nous qui pouvons, de ce côté-ci de la croix, embrasser d'un seul coup d'œil et la prédiction et sa réalisation, le langage d'Ésaïe est simplement étourdissant de vérité. Dans cette perspective, il n'est pas possible de lire la prophétie d'Ésaïe sans ressentir les pulsations d'une profonde émotion. Ésaïe nous dépeint le Christ sans le nommer. Il le voit méprisé et abandonné des hommes, dédaigné, se heurtant à l'indifférence générale. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et ici, le prophète envisage l'événement comme déjà passé. Il se met donc à notre place. Il nous prête ses yeux et son cœur. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus connaissait bien cette page d'Ésaïe. Les écrits du prophète lui étaient familiers, car il les cite plusieurs fois dans ses discours au peuple. Et sur la croix, il était tout à son œuvre rédemptrice, telle qu'Ésaïe l'avait décrite. Il était soumis à ses souffrances indicibles qui apporteraient la guérison aux hommes rongés par le péché. Tout ce qu'il avait à dire, il l'avait déjà dit. Son œuvre, à ce moment-là, ne consistait plus à parler, mais à se donner, à s'offrir volontairement sur l'autel du monde, à la place du monde, pour le salut du monde. Toutefois, sa vie, il ne va pas l'offrir à un monde aveugle et anonyme. En parlant à ce brigand repentant, et puis à sa mère et à l'apôtre Jean, il nous a montré que sa vie, il la donne pour chacun d'entre nous en particulier, individuellement, pleinement. Tous les hommes sont concernés par cette croix qui s'est dressée dans le ciel de la Palestine. Tous les hommes et chaque homme en particulier dans le secret de son cœur. Il y a encore une autre raison qui peut expliquer le silence du Christ. C'est qu'il y a certaines personnes à qui Jésus n'a plus rien à dire, car ses paroles ne les atteindraient même plus. Et elles étaient toutes là, représentées, au pied du supplicié. Il y avait là des moqueurs qui se repaissaient d'un spectacle gratuit. Ils auraient bien voulu l'entendre parler pour alimenter leur sarcasme. Il y avait aussi ceux dont la haine à son égard était telle que, non satisfait de le voir en proie à d'horribles souffrances, il se répandait encore en injures et en invectives. Les chefs religieux ne cachaient pas leur satisfaction. Ils avaient convoité sa mort depuis longtemps. Ils le mettaient au défi de se délivrer lui-même et de leur prouver qu'il était véritablement le Fils de Dieu. S'il parvenait à descendre de la croix, il promettait de croire en lui. À cette meute hurlante, haineuse et sifflante, Jésus n'avait rien à dire. Oh, certes, il aurait pu les balayer d'un seul mouvement de sa volonté et descendre de sa croix, comme il l'avait suggéré. Mais il avait choisi de boire la coupe jusqu'à la lie. Il ne pouvait que leur opposer son silence, son humanité et sa souffrance rédemptrice. Même à ceux qui passaient là et qui secouaient la tête sans rien dire, à leurs yeux, il n'était qu'un condamné à mort. Ce malheureux était peut-être innocent. Qui aurait cru qu'il finirait ainsi? Mais qui pouvait-il? Alors, il passait en curieux et secouait silencieusement la tête. Non, ce n'était plus le moment de menacer les insulteurs, de reprendre et de confondre les railleurs ou d'arrêter les passants indifférents. En ce moment-là, rien n'était plus éloquent que son silence. La croix était en elle-même le dernier message d'amour de Dieu aux hommes. Aujourd'hui, cette sorte de gens qui se trouvaient au pied de la croix se manifestent toujours. Il y a encore ceux qui se moquent ouvertement de la parole de Dieu. Ils ne perdent aucune occasion de railler ce qui a trait à l'Évangile, à son message et à ses messagers. Ils se vantent d'être évolués et à tout jamais affranchis de ces niaiseries. Ce genre de sarcasme n'est pas très loin de la haine. De toute évidence, ils ne savent pas ce qu'ils font ni ce qu'ils disent. Il y a ceux qui, sans railler et sans haïr, mettent sincèrement en doute le contenu de l'Évangile. Ils se sont imposé cette discipline de ne se soumettre qu'à l'approbation de la science et de leur raison, qui sont des moyens de connaissance pourtant si fragiles, si inconstants. Enfin, il y a ceux qui passent. Ils ne pensent pas, ils ne pensent rien. Ils sont apathiques, indifférents à tout ce qui ne les touche pas de près. Les bras du crucifié s'étendent au-dessus de tout cela et au-dessus de tous les hommes de tous les temps, car la croix est le point de ralliement de l'humanité entière. Elle est silencieuse, cette croix, et pourtant, comme elle est éloquente, comme elle dit à chacun ce qu'il a besoin d'entendre. L'évocation de la croix a inspiré au théologien Karl Rahner cette méditation que j'ai devant moi. Venez, pécheurs, ou plutôt, car nous le sommes tous, venons devant cette croix, car c'est nous qui l'avons crucifiée. Ce sont nos péchés dont il est chargé, c'est notre péché qui a engendré la mort dont il est la victime, sa souffrance et sa mort sont l'œuvre de nos mains pécheresses. Venez, agonisant, car c'est son propre destin qui vous accable. Si vous mourrez, c'est parce qu'il est mort. Ah, sans doute la cause universelle de la mort demeure bien le péché. Mais si Dieu n'a pas banni de son royaume terrestre cette tare mortelle qu'est la faute, c'est que la loi suprême qui régit l'économie de ce monde est l'amour qu'il porte à son Fils devenu notre chair. Et quand la mort de ce Fils, le monde s'est trouvé pris dans les filets de la miséricorde divine. Et c'est pourquoi la mort, dans laquelle nous voyons le salaire du péché et que nous souffrons comme tel, n'est finalement autre chose que l'arrêt de mort du péché. Venez, vous qui souffrez, et répandez vos larmes devant la croix de Jésus. Est-il une détresse si désespérée qu'elle soit, dont il n'est partagé la nuit? Des larmes qui ne soient sanctifiées par les siennes? Une souffrance guettée par la désespérance que n'adoucisse en rien le fait de savoir qu'elle a été supportée par le Fils de l'homme qui était aussi le Fils de Dieu? Venez, petits enfants, à genoux vous aussi. Ah, comme il vous a aimé, et comme il vous a fait confiance, lui qui pourtant savait ce qu'il y a dans tout être humain, au point de menacer de sa malédiction ceux qui sont pour l'un de vous cause de chute. Venez, vieillards, vous qui, à voir les choses en face, N'avez plus guère devant vous et pour vous que la perspective de la mort. Agenouillez-vous devant ce Dieu à l'agonie. Ah, vous ne savez pas ce qui vous attend. La grâce la plus grande de votre vie. Mais en même temps l'acte le plus difficile. Et sachez bien que pour recevoir cette grâce et accomplir cet acte comme il faut, vous n'avez d'autre moyen que de mourir en lui et avec lui. Venez, vous qui n'avez plus de patrie. Prosternez-vous et regardez cet homme qui a accepté d'être rejeté par son propre peuple et traîné hors de la ville pour mourir au bord d'une route, après avoir marché toute sa vie un dur chemin sans rien pour reposer sa tête, plus pauvre que les renards et que les oiseaux du ciel. Venez, vous qui souffrez de la solitude. Vous n'avez pas à ouvrir la bouche, car le solitaire de la croix, ah, y eut-il jamais quelqu'un de plus seul, de plus perdu dans l'immensité du désert de la mort et de l'abandon dans lequel Dieu lui-même le laissait? Le solitaire de la croix connaît votre détresse et a pris dans son propre cœur toute votre solitude amère, ne gardant rien d'autre que son amour pour ceux qui souffrent de l'abandon. Venez, vous les veuves, et vous les mamans qui pleurez la mort d'un enfant. Voyez comment, par un effort suprême de sa sollicitude et de son amour, son regard s'abaisse à travers les ombres de la mort qui l'enveloppe déjà, sur cette femme, sa mère, que sa mort va laisser seule. Venez, vous tous qui aimez, car nous sommes ici à la source de tout amour et de ce pouvoir suprême de transformer même les déceptions de l'amour en un amour plus fort que la mort, en un amour capable, comme l'est seul celui du Christ, d'alimenter sa flamme à son propre brasier. Venez, sages et savants de ce monde, apprenez ici que toute science est vaine qui ne se consume pas dans la sainte folie de l'amour. Apprenez que la logique de la croix, folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs, est, pour ceux qui sont appelés au salut, sagesse de Dieu et puissance de Dieu, et qu'il n'a plus à Dieu de sauver le monde par la croix, afin que toute langue se taise et que toute sagesse du monde s'abaisse devant la folie de l'amour de Dieu. Venez, vous-même qui estimez n'avoir pas la foi. Vous vous contenterez peut-être de rester debout et de regarder. Ah, si vous avez un cœur d'homme, je veux dire si vous cherchez humblement la lumière et que vous consentiez à ne pas vous voiler la face devant la mère détresse de votre cœur, alors je vous le dis, votre souffrance, que vous le sachiez ou non, est celle du Christ. Entendez son grand cri, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ayez le courage de jeter sur lui le regard d'un amour fraternel, puisque lui, le Fils éternel du Père céleste, s'est plongé dans ces ténèbres effrayantes et mortelles. Si vous avez l'impression accablante que Dieu est mort dans votre cœur, est-ce là autre chose qu'une participation? Ah, plaise à Dieu que la foi vous fasse saisir cela. Une participation au destin même de ce Dieu qui a voulu mourir réellement pour vous. Il a voulu connaître la mort pour que vous viviez et que vous croyiez. Et je viendrai enfin moi-même me mêler à cette longue théorie, être singulier et inexprimable, dont l'identité profonde est mystère, étincelle qui tremble entre deux abîmes, le néant et l'infini, ignorant mon origine et ma destinée, comme j'ai peur de moi-même et des abîmes de mon cœur. Ou alors être mieux que devant cette croix qui dévoile le mystère de la destinée humaine, et sur laquelle Dieu nous fait connaître son vrai visage, celui de l'amour. Je m'agenouillerai donc, moi aussi, devant la croix, et je resterai en silence. Et si ce pauvre moi se contente de cet amour silencieux, et s'abandonne ainsi avec la confiance de l'amour, alors il aura conscience de ne trouver que dans le crucifié sa véritable nature et son authentique image. Chers amis, puissions-nous ne pas être endurcis dans notre égoïsme et notre orgueil, au point de ne plus entendre cet appel d'amour qui émane de Golgotha.